Chapitre 32. Compte zéro. Bobby suivit Jackie et la fille brune hors du bureau. Il avait l'impression d'être resté dans le Jammers pendant un mois et qu'il ne parviendrait jamais à sauter le goût de cet endroit de la bouche. Les petits projecteurs enfoncés dans des niches du plafond noir, les sièges épais en ultra-suède, les tables rondes et sombres, les paravents en bois sculpté. Beauvoir était assis sur le bar, le détonateur près de lui et le fusil sud-africain sur les cuisses de son pantalon en shark skin. « Pourquoi tu les as laissés entrer, en fait ?» demanda Bobby une fois que Jackie eut conduit la fille jusqu'à une table. « Jackie, » expliqua Beauvoir, « elle s'est foutue en transe pendant que t'étais dans les vapes. L'Ekba. Il nous a dit que la Vierge arrivait ici avec ce type. »« C'est qui, ce gars ?» Beauvoir haussa les épaules. Un mercenaire, visiblement. Soldat pour les Aibatsu. Un samouraï des rues qui a pris du galon. Qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu étais inconscient ? Il lui parla de Jaylin Slide. Elle est, dit Beauvoir. Elle serait capable de traverser du diamant pour retrouver celui qui a buté son mec, mais pour aider un frère, elle ne bougera pas le petit doigt. Je ne suis pas un frère. Ça doit aussi jouer. Alors, je pourrais pas essayer d'atteindre le Yakuza ?
Il en dit quoi, Jammer ?
Que dalle ! Il est là-bas.
Il mate le mercenaire téléphoné. À qui ? Un blanc aux cheveux décolorés, l'air méchant. Beauvoir regarda Bobby, puis la porte et retour. L'Ekba a dit de ne pas bouger et de rester sur nos gardes. C'est déjà bien assez aléatoire sans ajouter les fils du chrysanthème de néon.
Beauvoir ! L'interpella Bobby à voix basse. « Cette fille, c'est elle, celle de la matrice, quand j'ai essayé de lancer ce... »
Il acquiesça et sa monture en plastique glissa sur son nez. « La Vierge !»«
Mais que se passe-t-il en fait ?»«
Bobby, si tu veux mon avis, il vaut mieux ne pas trop réfléchir à tout ça. Elle représente quelque chose à mes yeux et sans doute autre chose à ceux de Jackie. Pour toi, ce n'est qu'une gamine effrayée. Ne la dérange pas. Elle est loin de chez elle et... Nous ne sommes pas encore sortis d'ici.
D'accord.
Bobby regarda par terre.
Désolé pour Lucas, mec. C'était un sacré type.
Rejoins Jackie et la fille, dit Beauvoir. Je surveille la porte.
D'accord.
Il marcha sur la moquette de la boîte de nuit jusqu'à l'endroit où Jackie était assise avec la fille. Elle n'avait rien d'impressionnant et il n'était pas encore tout à fait persuadé qu'il s'agissait bien d'elle. Elle ne leva pas les yeux et il remarqua qu'elle avait pleuré.
« Je me suis fait avoir, » dit-il à Jackie. « Tu as disparu d'un coup. »«
Toi aussi, » expliqua la danseuse. Puis l'Ekba est venu me voir.
« Newmark !»
appela l'homme nommé Turner depuis la porte du bureau de Jammer.
« Nous voulons te parler. »«
Je dois y aller, »
dit-il en espérant que la fille lève les yeux et voit l'immense type qui le demandait. « Ils ont besoin de moi. » Jackie lui serra le poignet.
Laisse tomber les Yakuza, dit Jammer, c'est bien plus compliqué. Tu vas aller dans le réseau de LA et viser le bureau d'une super hacker. Lorsque Sly t'a attrapé, elle ignorait que mon bureau avait capté son numéro.
Elle a dit que ta bécane avait sa place dans un musée. Elle y connaît que dalle, tonna Jammer.
Je sais où elle habite, pas vrai?
Il prit une bouffée à son inhalateur et le reposa sur l'interface.
Ton problème, c'est que tu n'existes plus à ses yeux, qu'elle ne veut plus entendre parler de toi.
Il faut que tu la retrouves et que tu lui dises ce qu'elle désire savoir.
C'est-à-dire
que c'était un type du nom de Conroy qui a descendu son petit copain, répondit le grand adossé dans une des chaises de bureau de Jammer avec l'immense pistolet sur les genoux.
Conroy. Dis-lui que c'était Conroy.
C'est lui qui a engagé ses chevelus là.
Dehors.
Je préfère tenter ma chance avec le yak, dit Bobby.
Non, intervint Jammer. Cette slide va s'occuper directement de lui. Le yak, lui, tergiverserait, il chercherait d'abord à tout vérifier. Et puis je croyais que tu voulais apprendre à maîtriser une bécane.
Je l'accompagne, dit Jackie depuis la porte.
Ils se connectèrent. Elle mourut presque aussitôt, dans les 8 premières secondes. Il le sentit, alla jusqu'aux limites pour y échapper et ne réussit que de justesse. Il hurlait, tourbillonnant, aspiré dans l'entonnoir blanc et glacial
qui les attendait. L'échelle de ce qui l'entourait était impossible, trop vaste, comme si le genre de mégastructure cybernétique qui représentait l'ensemble d'une multinationale pesait de tout son poids sur Bobby Newmark et une danseuse nommée Jackie. Impossible. Mais quelque part, aux limites de la conscience, juste avant de perdre connaissance, il y eut quelque chose qui lui tirait la manche. Il avait le visage appuyé sur une substance rugueuse. Il ouvrit les yeux. Un chemin de pavés ronds mouillé par la pluie. Il se releva comme il put, titubant, et découvrit le panorama brumeux d'une ville étrange au bord de la mer. Des flèches, une sorte d'église, des nervures et des spirales folles de pierre de taille. Il se retourna et vit un immense lézard qui descendait une pente vers lui, la gueule ouverte. Il cligna des yeux. Les dents du lézard étaient en céramique verte. Un lent filet d'eau coulait depuis ses lèvres bleues en mosaïque. Il s'agissait d'une fontaine. Les flancs recouverts de milliers de morceaux de porcelaine brisés, il se retourna, affolé par la proximité de la mort de Jackie. De la glace. De la glace. Et il comprit alors quelque part à quel point il l'avait frôlé dans le salon de sa mère. Il y avait d'étranges bancs incurvés décorés du même patchwork vertigineux de porcelaine. Et des arbres, de l'herbe, un parc. « Extraordinaire !» dit un homme en se levant d'un banc sinueux. Il avait des cheveux gris coiffés en brosse, un visage hâlé et des lunettes rondes sans monture qui faisaient ressortir ses yeux bleus. « Vous avez réussi à tout traverser pour arriver ici, n'est-ce pas ?
Qu'est-ce que c'est ? Où suis-je ?
Le parc Güell, pour ainsi dire. Barcelone, si vous voulez. »
« Vous avez tué Jackie ? »
L'homme se renfrogna. « Je vois. Je crois que je comprends. » Mais vous ne devriez pas être ici. Un accident.
Un accident ? Vous avez tué Jackie !
Mes systèmes sont trop sollicités aujourd'hui, dit l'homme, les mains dans les poches d'un ample par-dessus.
C'est vraiment extraordinaire. Vous ne pouvez pas faire ça,
lança Bobby tandis que ses yeux se mouillaient de larmes.
Vous ne pouvez pas !
On ne peut pas tuer quelqu'un qui était juste là.
Juste où ? L'homme retira ses lunettes et les frotta avec un mouchoir blanc immaculé tiré de la poche de son manteau.
« Là, vivante !»
dit Bobby en avançant d'un pas. L'homme remit ses lunettes.
Ce n'était encore jamais arrivé.
« Vous n'avez pas le droit !»
Plus proche désormais, cela devient pénible.
« Paco ?»«
Signor ?»
Bobby se retourna en entendant la voix de l'enfant et il vit un petit garçon dans un étrange costume raide avec des chaussures en cuir noir fermées par des boutons.
« Débarrassez-vous de lui. »«
Signor, »
dit le garçon avant de s'incliner avec rigidité et de prendre un petit automatique Browning bleu dans son manteau sombre. Bobby contempla les yeux noirs sous la mèche luisante et vit un regard qui n'avait rien d'enfantin. Le garçon tendit le pistolet et visa Bobby.
« Qui êtes-vous ? »
Bobby ne se soucia pas de l'arme, mais n'essaya plus de s'approcher de l'homme en manteau qui se tourna vers lui.
« Virek, Joseph Virek,
je crois que mon visage est assez connu.
Vous êtes dans People of Importance ou quoi ?»
L'homme plissa les yeux et fronça les sourcils.
« J'ignore de quoi vous parlez. Paco, que fait cette personne ici ?»
Un débordement accidentel, dit l'enfant d'une voix belle et légère. Nous avons lancé la majeure partie de notre système via New York pour tenter d'empêcher l'évasion d'Angela Mitchell. Lui a tenté de pénétrer dans la matrice avec une autre plongeuse et il est tombé sur notre dispositif. Nous essayons toujours de déterminer comment il a pu passer nos protections. Vous n'êtes pas en danger.
Le canon du petit Browning était parfaitement immobile.
Puis, la sensation qu'on lui tirait la manche. Pas tout à fait la manche, mais sur une partie du cerveau, quelque chose.
Signor, dit l'enfant, une anomalie est apparue dans la matrice, sans doute à cause de votre surplus d'activité actuelle. Nous vous conseillons de nous laisser couper votre connexion avec la reconstruction jusqu'à ce que nous ayons déterminé la nature de l'anomalie. La sensation devenait plus forte désormais, comme si on lui grattait l'arrière du cerveau.
Quoi ?
dit Virek. « Et retourner dans les cuves ? Cela ne me semble pas valoir. »«
Un grand danger vous menace peut-être, » dit le garçon avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Il bougea légèrement le canon du Browning.
« Toi !» lança-t-il à Bobby. « Allonge-toi, sur les pavés, et écarte les bras et les jambes. »
Mais Bobby regardait derrière lui un massif de fleurs qui fanait et mourait, l'herbe qui prenait une teinte grise et tombait en poussière sous ses yeux, l'air au-dessus du parterre qui se tordait et s'agitait. La sensation que quelque chose le grattait à l'intérieur de la tête devenait plus forte, plus pressante.
Virek s'était tourné vers les fleurs mourantes. « Qu'est-ce que... »
Bobby ferma les yeux et pensa à Jackie. Il y eut un bruit et il comprit qu'il émanait de lui. Il descendit en lui-même sans cesser d'entendre le bruit, puis toucha l'interface de Jammer. « Viens !» cria-t-il intérieurement, sans chercher à savoir à qui il s'adressait. « Allez, viens !» Il sentit quelque chose céder, une sorte de barrière, et le grattement disparut. Lorsqu'il ouvrit les paupières, il y avait un objet dans le massif de fleurs mortes. Il cligna des yeux. Il lui sembla qu'il s'agissait d'une croix de bois peinte en blanc. Sur les bras horizontaux, on avait enfilé les manches d'une vieille veste de marine, une sorte de queue de pie tachée de moisissure, aux épaisses épaulettes à franges à la dorure ternie, avec des boutons rouillés et des manchettes galonnées. Un coutelas érodé était posé manche vers le haut contre la croix blanche, près d'une bouteille à moitié remplie d'un fluide transparent. L'enfant se retourna, le petit pistolet devint flou. Et le gamin se froissa, se repliant sur lui-même, comme un ballon qui se dégonfle, un ballon aspiré dans le vide. Le Browning heurtant les pavés tel un jouet oublié.
« Je m'appelle Samedi !»
dit une voix qui donna envie à Bobby de crier lorsqu'il s'aperçut qu'elle sortait de sa propre bouche.
« Et tu as tué la monture de mon cousin ?»
Virek se mit à courir, le long par-dessus, voltant derrière lui sur le chemin sinueux bordé de bancs courbés. Et Bobby vit qu'une autre croix blanche l'attendait là-bas, à l'endroit où le sentier tournait avant de disparaître. Puis Virek dut la voir à son tour, il hurla. Et Baron Samedi, seigneur des cimetières, le Loa dont le royaume était la mort, se déploya sur Barcelone comme une froide pluie sombre.
« Qu'est-ce que tu veux, bon sang ? Qui es-tu ? »
Il connaissait cette voix, une voix féminine, pas celle de Jackie. « Bobby !» dit-il, traversé par des vagues de ténèbres. « Bobby ! Comment es-tu arrivé ici ?»
Jammer, il savait. Son interface t'a logé la dernière fois lorsque tu m'as figé.
Il venait de voir quelque chose d'énorme. Il ne se rappelait plus quoi.
« Turner m'a envoyé. » Conroy, il m'a dit de te dire que c'était Conroy, c'est lui que tu cherches.
Il entendait sa propre voix comme celle de quelqu'un d'autre. Il était allé quelque part, était revenu et il se retrouvait désormais là, dans l'esquisse au trait de néon de Jeline Slide. Sur le chemin du retour, il avait vu l'immense chose, ce qui les avait aspirés vers le haut, commencer à se déformer et à changer de forme. Des blocs gigantesques tournant sur eux-mêmes, s'entremêlant, se plaçant sur de nouveaux alignements pour modifier les contours de l'ensemble.
« Conroy !»
dit-elle. Le gribouillis sexy était appuyé contre la fenêtre de la vidéo, sa silhouette exprimant une sorte d'épuisement, voire d'ennui.
« C'est bien ce que je pensais. »
L'image de la vidéo blanchit, puis afficha une vue sur de vieux immeubles en pierre.
Parc Avenue. Il est là-haut avec tous ces Européens en train de préparer une nouvelle arnaque.
Elle poussa un soupir.
Il se croit à l'abri, tu vois. Il a écrasé Ramirez comme une mouche, m'a menti en me regardant droit dans les yeux, s'est barré à New York pour un nouveau boulot. Et il se croit maintenant à l'abri.
La silhouette bougea et l'image se modifia de nouveau. Le visage d'un homme aux cheveux blancs, celui que Bobby avait vu parler au grand sur le téléphone de Jammer, emplit alors l'écran.
« Elle a piraté sa ligne », comprit-il.
« Ou pas ?» intervint l'audio de Conroy. « Dans tous les cas, nous avons la fille. Aucun problème. »
L'homme paraissait fatigué, se dit Bobby, mais il gérait encore. Un coriace, comme Turner.
« Je te surveillais, Conroy, »
murmura Slide.
« Mon ami Bunny te surveiller pour moi. Tu n'es pas le seul à être encore debout sur Park Avenue ce soir.
Non, lança Conroy. Nous pouvons l'envoyer à Stockholm d'ici demain. Absolument. Il adressa un sourire à la caméra.
Tue-le, Bunny,
ordonna-t-elle.
Tue-les tous. Fais exploser tout l'étage et celui d'en dessous. Allez.
C'est ça, dit Conroy, puis il se passa quelque chose. Quelque chose qui secoua la caméra et rendit son image floue. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il d'une toute autre voix, puis l'écran devint noir.
Crame, sale enfoiré,
dit-elle. Et Bobby se retrouva dans l'obscurité.